BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à toutes et à tous. Comme le titrait le très connu hebdomadaire Der Spiegel il y a peu en Allemagne, c'est LA question à 1 million d'années. Celle qui mobilise des dizaines de chercheurs, fait sauter en l'air et manifester des milliers d'activistes, divise au sein même des partis politiques la question de l'enfouissement des déchets nucléaires. Alors pourquoi est-ce si sensible et compliqué? On tente de comprendre tout cela ensemble aujourd'hui. Et puis dans 5 minutes, direction Paris, 59 ans après le massacre de dizaines d'Algériens dans la capitale française. Ils demandaient pacifiquement l'indépendance de leur pays. Des témoins de l'époque se souviennent.
Ils attrapaient les gens, il y en a beaucoup qui ont été étouffés, ouais.
Vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen, je vous souhaite la bienvenue. Los geht's, c'est parti. Radioactivité, quand notre futur est en jeu. Chanson intitulée Radioactivity du groupe allemand Kraftwerk de 1975. Preuve que le débat autour de cette question du nucléaire n'est pas neuf en Allemagne. Et on en parle aujourd'hui alors que la Bundesgesellschaft für Endlagerung, la Société fédérale pour le stockage définitif des déchets, vient de publier un rapport. Rapport intermédiaire. Le but de cet organisme, avec son nom à rallonge, trouver un site d'enfouissement des déchets nucléaires très dangereux d'ici 2031. Alors pour comprendre, de quoi parle-t-on? Eh bien les déchets nucléaires, ce sont les restes de l'industrie nucléaire dans l'armement, la recherche, la médecine ou encore, et surtout, dans les centrales nucléaires qui produisent de l'électricité, des déchets qu'on ne peut pas recycler ou réutiliser. Selon une estimation du ministère fédéral de l'environnement allemand, d'ici 2080, environ 650 000 mètres cubes de déchets nucléaires seront produits en Allemagne. Des déchets plus ou moins radioactifs, plus ou moins dangereux et déjà en partie stockés. Mais ce dont on parle aujourd'hui, donc avec cette société qui cherche un lieu de stockage, ce sont les 1% de déchets les plus radioactifs. Ça concerne 27 000 mètres cubes pour lesquels l'Allemagne cherche désormais donc ce lieu de stockage. Lieu qui sera choisi pour 1 million d'années, c'est dire l'importance de la décision. En attendant, il y a des lieux de stockage provisoires ou alors ces déchets sont encore dans les centrales.
DW.
Alors c'est pour ces 27 000 mètres cubes de déchets, je le disais, qu'on cherche désormais un lieu de stockage. Mais ce n'est pas simple. Vous avez peut-être déjà vu ces images devenues célèbres en Allemagne depuis des années d'activistes qui bloquent des trains, qui s'enchaînent à des rails, pour bloquer des convois de déchets nucléaires justement vers des lieux de stockage. Ces sites cristallisent les oppositions parce que ces déchets sont dangereux, évidemment que personne n'en veut à côté de chez soi et que les défenseurs de l'environnement veulent surtout que toutes les précautions soient prises. Entreprises et autorités assurent toujours que c'est le cas, évidemment, mais il y a eu par le passé des problèmes, des mines de stockage, par exemple comme celle d'Asse, qui se sont révélées instables ou dangereuses après des années d'utilisation. Ainsi, pour ne pas ou ne plus faire n'importe quoi pour les déchets les plus radioactifs, la BGE, la Société fédérale dont on parlait pour le stockage définitif des déchets, a été créée en 2016. Depuis, près de 70 scientifiques collectent et analysent les données sur le sol allemand, sa composition, pour trouver donc le lieu approprié pour stocker les déchets radioactifs définitivement. C'est cela qui doit se décider d'ici 2031. Avant cela, fin 2022, l'Allemagne arrêtera ses dernières centrales nucléaires. La décision avait été prise de ne plus utiliser cette énergie après l'accident de Fukushima en 2011. Et donc c'est dans le cadre de ce processus de décision pour trouver un lieu de stockage que la Société fédérale pour le stockage définitif des déchets a publié un rapport intermédiaire avec des premières pistes tout récemment.
Avec cette première étape, nous disons maintenant que 54% de la superficie de l'Allemagne est adaptée pour ce stockage. Ça veut dire, et je le répète délibérément, que les sites identifiés sont loin d'être des sites de dépôt définitif.
L'annonce de Stefan Stutz, le président de la Société fédérale pour le stockage définitif des déchets fin septembre, en annonçant que 54% du sol est adapté pour un lieu de stockage des déchets, lui et ses équipes ont aussi proposé une carte avec 90 zones qui pourraient accueillir le site définitif, le fameux site à 1 million d'années. Des propositions, des sites répartis dans tous les lenders, à l'exception de la Sarre, vers la France. Des endroits choisis en fonction de divers critères, des régions où il n'y a pas d'activité volcanique, des tremblements de terre et où la roche est suffisamment profonde et épaisse. Sauf que, à peine désignés, les lieux sont déjà décriés de tous côtés. Markus Söder, par exemple, le ministre président du Land de Bavière, ne veut pas entendre parler d'un lieu de stockage dans sa région.
S'il est censé y avoir une large discussion, et les gens peuvent en avoir une, la question fondamentale pour nous reste pourquoi Gorleben est-il fondamentalement exclu d'un tel processus? Nous ne bloquerons pas totalement les efforts et nous n'éluderons pas non plus notre responsabilité. Mais la façon dont les Verts au Parlement bavarois disent que la Bavière doit devenir un site de stockage de déchets nucléaires est quelque chose que nous ne pouvons honnêtement pas comprendre. C'est pourquoi nous voulons en discuter de manière approfondie au sein du Parlement bavarois.
Le ministre, président de Bavière, qui se demande pourquoi l'ancienne mine de sel de Gorleben en Basse-Saxe, longtemps pressentie pour accueillir le site d'enfouissement des déchets nucléaires à long terme, a été exclue. Manière, si on lit entre les lignes, de dire que la Bavière, sous son gouvernement, n'acceptera pas un tel lieu de stockage chez elle. D'ailleurs, le parti de Markus Söder a déjà dit dans son contrat de coalition qu'il se battrait contre un tel lieu. Personne ne veut donc les poubelles nucléaires chez lui. Et en plus, les militants écologistes critiquent la manière dont le premier rapport de plusieurs centaines de pages a été fait. Le porte-parole de l'ONG anti-nucléaire Ausgestrahlt, Johann Stey, par exemple, qui devait être notre invité mais est très pris en ce moment, pointait récemment du doigt chez nos confrères de Deutschlandfunk des manques dans les données géologiques utilisées et craint une politisation du débat plus qu'une décision qui serait prise sur des critères 100% scientifiques.
Il y a des réunions citoyennes d'organiser, il y a beaucoup de choses à discuter, mais en fin de compte, ces conférences n'ont pas leur mot à dire. La Société fédérale pour le stockage définitif des déchets peut rejeter tous les résultats de ces réunions. Et en plus, il y aura toujours une limite à l'approche scientifique, puisque le Bundestag décidera à chaque étape des régions qui restent dans le processus. On entend déjà des députés du Bundestag de différents endroits, non seulement de Bavière, mais aussi d'autres régions, dire « Eh bien, je vais faire en sorte que ma circonscription soit mise hors jeu au Parlement. »
Et c'est effectivement le Bundestag qui décidera in fine. En attendant, il y a quelques jours, les premières réunions publiques avec les citoyens sur le sujet ont eu lieu. Elles vont se poursuivre l'an prochain, avant de nouvelles recommandations, de nouvelles études et des décisions. Le lieu final, on le disait, doit être choisi d'ici 2031. Mise en service prévue du futur site de stockage à l'horizon 2050. Les 27 000 mètres cubes de déchets hautement radioactifs seront alors répartis dans 1 900 conteneurs enterrés pour au moins 1 million d'années. Tchernobyl, le dernier signal avant la surenchère, a arrêté les centrales nucléaires. Chanson de 1986, la même année que celle de l'explosion dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Chanson du chanteur allemand Wolf Mann, qui s'était aussi, quelques mois avant cela, engagé dans le projet Band für Afrika, réunion d'artistes allemands pour collecter des fonds pour aider le continent africain. Vue d'Allemagne, deuxième partie, direction la France, 59 ans après un massacre en plein Paris. Le 17 octobre 1961, des dizaines d'Algériens trouvent la mort. Leur tort, avoir voulu manifester pacifiquement pour demander l'indépendance. Ce jour-là, le défilé qui réunit alors quelques 30 000 personnes se heurte à la police. Il faut dire qu'on est dans le contexte tendu de la guerre d'Algérie, des attaques du FLN contre des policiers et des sévices réguliers de la police contre des Algériens. La manifestation dégénère, il y aura des dizaines de morts. 59 ans après ce drame, la communauté algérienne de France demande toujours la reconnaissance par les autorités françaises de ce qu'elle appelle un crime d'État. Reportage à Paris, signé Nadir Djennad.
Allez, vous jetez tous en même temps. De nombreux Algériens jettent des roses dans la Seine. C'est un rituel pour eux le 17 octobre, se recueillir sur le pont Saint-Michel à la mémoire de leurs compatriotes morts le 17 octobre 1961. Cette date où des centaines d'Algériens manifestent à Paris pour demander la levée du couvre-feu qui les touchait et l'indépendance de leur pays d'origine. 59 ans après, ils étaient une centaine cette année à se recueillir et déposer des fleurs devant la stèle commémorative inaugurée il y a un an par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des anonymes, militants associatifs et des témoins de cet événement tragique. Ali Chami, algérien âgé de 82 ans, a participé à cette manifestation du 17 octobre 1961.
On est arrivé au musée Cluny, oui. Boulevard Saint-Germain. La police a chargé. Ils chargeaient et il fallait sauf qu'il peut. Il fallait sauf qu'il peut. Sinon, ils attrapaient les gens. Il y en a beaucoup qui ont été étouffés. Ouais. Étouffés. Une bête est plus respectée que nous. Ouais. Chacun, il fallait qu'il se mette dans un coin où il pouvait.
Raïm Rezigat vient tous les ans sur le pont Saint-Michel rendre hommage aux victimes. Âgé de 84 ans, il avait 17 ans au moment des faits. En cette année 1961, il soutient alors le Front de Libération Nationale Algérien, qui milite pour l'indépendance. Il est interpellé par la police plusieurs heures après la manifestation du 17 octobre 1961.
Ils nous embarquaient tous à Vincennes, au centre de tri de Vincennes. Quand on arrive, il y a une file de flics et nous on passe au milieu. Chaque fois on reçoit des coups de pied, des crachats et tout. Et moi j'ai eu de la chance que j'ai été libéré le lendemain.
Le 17 octobre 2012, le président François Hollande, plus de 50 ans après la manifestation, déclare que la République reconnaît ses faits avec lucidité. Ce n'est pas assez pour les Algériens de France qui demandent la reconnaissance officielle des autorités françaises de ce drame comme un crime d'État. Akli Melouli, franco-algérien, militant associatif.
Ces massacres ne font pas honneur à la France et que effectivement ces victimes ne soient pas oubliées, qu'elles retrouvent leur dignité, que leurs familles retrouvent leur dignité, que ce ne soit pas des anonymes qui ont disparu, mais que ce soit des combattants qui sont morts pour une cause, pour la paix. On demande de réparation et la reconnaissance. C'est un crime d'État qui a été commis le 17 octobre en France.
La répression policière commandée par le préfet Maurice Papon fera des dizaines de victimes. Combien exactement? Difficile à dire, tant le sujet a longtemps été et est encore tabou en France. À l'aube des années 2000, une commission d'enquête, qui se plonge notamment dans les documents d'archives de la police française, parle de 48 morts pour la seule nuit du 17 octobre. D'autres historiens parlent de plus de 100 morts quelques années après. C'est plus encore si on prend en compte la période de violence de l'époque qui durera plusieurs mois. Gilles Manseron est historien, spécialiste de la colonisation, auteur notamment de la triple occultation d'un massacre, publié aux éditions La Découverte.
C'est une décision de répression qui a été prise au plus haut niveau de l'État. Les choses sont très liées à l'avancée des négociations d'Évian, les négociations qui ont conduit à l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il y avait au sein de l'État français un désaccord très prononcé entre le Premier ministre, Michel Debré, et le Président de la République, Charles de Gaulle. Et une partie de l'État, dont la préfecture de police, qui était vraiment dans les mains du Premier ministre dans cette politique, eh bien, ont choisi de frapper fort cette manifestation d'Algériens le 17 octobre 1961.
Pour que ce drame tragique ne soit pas oublié, le réalisateur d'origine algérienne, Mehdi Lalaoui, recueille depuis une vingtaine d'années les témoignages des témoins et participants de la manifestation. Il a créé l'association Au nom de la mémoire, pour perpétuer la mémoire des victimes de la manifestation du 17 octobre 1961. Il a notamment réalisé Le silence du fleuve en 1991 sur le sujet. Aujourd'hui, Mehdi Lalaoui demande la création d'une fondation, d'un lieu de mémoire.
Les assassins n'ont jamais été poursuivis. Les policiers, parce que c'était des policiers, c'était pas des gens dissimulés sous des cagoules qui ont assassiné les Algériens à bout portant. Personne n'a été inquiété. Justice n'est pas faite, réparation n'est pas faite. Et notre combat aujourd'hui, c'est pour demander réparation. Et réparation, on ne peut pas réparer l'irréparable. Mais réparation, ça peut être une fondation qui se créerait, financée par l'État, pour la fraternité entre la France et l'Algérie, par exemple. Pour donner des bourses aux jeunes étudiants d'origine algérienne ou française, pour comprendre la guerre d'Algérie, pour comprendre les guerres coloniales.
En attendant la reconnaissance officielle de ce drame par les autorités françaises, Ali Chami, Raïm Rezigat continueront avec d'autres de manifester tous les 17 octobre à Paris, sur le pont Saint-Michel, en jetant des roses dans la Seine, à la mémoire des Algériens morts il y a 59 ans. Nadir Djennad, à Paris, pour la Deutsche Welle.
Nadir, qu'on salue et qu'on remercie pour ce reportage qui clôt ce numéro de Vue d'Allemagne cette semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous renvoie sur le site pour d'autres infos et le podcast de Vue d'Allemagne. Rendez-vous la semaine prochaine avec Anne Le Touzé pour d'autres infos. D'ici là, merci de votre fidélité. Alles Gute, portez-vous bien et à très bientôt. Tchuss !